Nous sommes là, un podcast lancé par la Commission fédérale des migrations qui nous plonge au cœur des défis et des réalités migratoires en Suisse. Dans cet épisode, nous allons parler d'éducation et plus particulièrement d'égalité des chances. Est-ce que la société suisse donne des chances équitables à toutes et à tous? Si l'on se réfère à sa constitution, tous les habitants devraient avoir les mêmes chances, indépendamment de leur origine sociale ou de leur sexe, et ainsi pouvoir développer leurs capacités en fonction de leurs propres aptitudes. Dans cette édition, nous allons nous demander si en Suisse, l'on hérite de son statut social défavorable, et si oui, existe-t-il des moyens de s'en affranchir? Mais surtout, nous tenterons de saisir les conséquences sociales et individuelles qu'une répartition inégale des chances peut engendrer. Et pour y répondre, avec moi aujourd'hui, trois invités. Sophie Chézeau, directrice de CAP Formation à Genève. Bonjour.
Bonjour.
Docteur Andrés Gomenzero, vous êtes un expert de la sociologie des inégalités scolaires et de la sociologie des migrations, puisque vous avez écrit votre thèse en 2019 sur les parcours scolaires des descendants d'immigrés en Suisse. Bonjour.
Bonjour.
Et enfin, Jacob Moustaklem, qui est en fin d'études à l'EHL, École hôtelière de Lausanne. Votre parcours scolaire, à lui seul, est une inspiration. Bonjour.
Bonjour, Madame Garval.
Alors aujourd'hui, pour commencer, j'aimerais qu'on fasse un état des lieux en guise d'introduction. J'aimerais m'adresser à Monsieur Andrés Gomenzero. Votre thèse s'intéresse aux inégalités de parcours scolaire selon l'origine migratoire en Suisse et leur construction progressive dans le temps. Dites-nous en quoi l'origine migratoire influe-t-elle dans la réussite ou non d'un parcours scolaire?
Alors, j'aurais envie de dire que l'origine migratoire, en tant que telle, influe peu sur la réussite scolaire, sur les choix scolaires, et ce sont davantage des caractéristiques plutôt sociales ou d'autres types de caractéristiques, par exemple le genre, et si on veut, un cumul de caractéristiques qui font les inégalités. Donc, si on veut, le fait d'avoir une origine immigrée d'un pays ou d'un autre, en tant que tel, ne crée pas les inégalités. C'est, si on veut, une résultante, si on veut, de la situation et des caractéristiques, du cumul des caractéristiques individuelles.
Quelles sont-elles, ces caractéristiques, en majorité?
Alors, si on veut, par exemple, donc on peut s'intéresser à l'origine sociale, qui est largement mise en avant dans les études comme étant un facteur créateur d'inégalités, ou si on veut lier aux inégalités, c'est-à-dire que si on a des parents universitaires ou des parents ouvriers, ça va donner des contextes de vie et des ressources au sein des familles qui sont différentes, et des aspirations également pour les enfants qui sont différentes. Donc ça, c'est un premier facteur, si on veut, qui est extrêmement important, et il y en a d'autres, comme je le disais, par exemple le genre, où on voit que les vocations ou les choix scolaires sont largement dépendants du genre, en fait, du sexe des gens, et les choix sont vraiment influencés par une multitude, si on veut, de caractéristiques. Et quand on essaie de faire le lien, si on veut, avec l'origine migratoire, on voit que, par exemple, certains groupes migratoires sont davantage de familles modestes, par exemple, ce qui explique, par exemple, certains désavantages ou certaines difficultés auxquelles ils font face.
Sophie Chézeau, en plus de diriger donc CAP Formation de Genève, vous bénéficiez aussi d'une expérience de psychologue conseillère en orientation. Expliquez-nous un peu qu'est-ce que CAP Formation et surtout quels sont les profils qui bénéficient de votre établissement.
Alors donc, CAP Formation est un dispositif de l'État de Genève, du département de l'instruction publique, et c'est un dispositif de case management interinstitutionnel. À l'intérieur de la même équipe, nous avons des personnes du DIP, mais nous avons aussi les collaborateurs de l'Office cantonal de l'emploi et des collaboratrices de l'Hospice général. Tout cela dans le même bâtiment pour aider les jeunes de 15 à 25 ans sans formation, qui sont donc en rupture de formation et qui ne sont pas au bénéfice déjà d'un diplôme du secondaire 2. Et notre mission vraiment, c'est de Notre première mission, mission principale, c'est de d'amener ces jeunes à entrer en formation, principalement la formation professionnelle. Et le message, la mission sous-jacente, eh bien, c'est de, entre guillemets, réparer ces jeunes, leur permettre d'être suffisamment bien dans leur basket, on va dire, pour entamer une formation et surtout la réussir, puisque on est très attaché au taux de maintien en formation.
Vous dites réparer ces jeunes, cela signifie que ce sont des jeunes en difficulté. Quel lien faites-vous avec cette idée de origine sociale? Monsieur Gomendero vient de souligner que l'origine sociale est un facteur quand même important qui expliquerait ces situations des jeunes.
Oui, alors ils ne sont pas tous en difficulté. Hein. Il y a à peu près 2000 jeunes qui passent par notre dispositif, dont 1000 qui sont réellement suivis parce qu'ils restent à l'intérieur du dispositif volontairement. Mais effectivement, tout ce qu'a dit Monsieur Comenzoro est... Enfin, je partage totalement ces conclusions parce qu'effectivement, tout au long de ma carrière sur le terrain et puis même encore maintenant avec le retour de mes collaborateurs, on voit très très bien que l'origine sociale de départ, peu importe la provenance, le pays, l'origine, au niveau des pays, de la nationalité, c'est très important effectivement. Hein. Il y a une nette, c'est tout à fait visible que plus on vient d'un milieu défavorisé, plus c'est difficile de passer ce pas et puis de quitter en gros sa famille, enfin de faire autre chose en fait, hein, et de dépasser le niveau de départ.
Mais concrètement, en quoi est-ce un obstacle? Comment cela se traduit tout au long du parcours d'un enfant, de son parcours scolaire?
Alors, nos jeunes, ils ont particulièrement des soucis au niveau du niveau scolaire, donc un déficit hein, en termes de compétences de base, hein, français, écrire correctement le français, le vocabulaire, les mathématiques, etc. Donc, ils arrivent avec un parcours scolaire souvent, c'est pas tous les jeunes, mais disons, il y a quand même pas mal de jeunes qui ont un niveau scolaire très péjoré, et l'idée, ben, c'est de relever ce niveau scolaire durant leur passage à Cap Formation notamment. Et puis on s'aperçoit aussi que ces jeunes ont des familles, donc ceux qui ne vont pas bien, hein, ceux qu'on doit reconstruire, ont des familles dysfonctionnelles, on va dire, souvent, hein, des familles soit incomplètes ou complètes d'ailleurs, mais quand même dysfonctionnelles. Et ça, c'est quelque chose qui est un frein énorme en fait dans leur progression.
Andrés Gomenzoro, en quoi est-ce que cette origine sociale qui produit en fait des difficultés et des freins tout au long du parcours d'un enfant lors de sa formation scolaire, qu'est-ce que cela traduit de notre société au niveau de ses failles, de ses manques?
Alors j'ai envie de dire qu'en fait, si on veut, le système scolaire a plusieurs missions. Une des missions, c'est d'assurer un certain niveau d'égalité des chances. Donc justement de ne pas prendre en compte ces caractéristiques individuelles et familiales et se dire que en fait l'origine sociale ne devrait pas influer, ou en tout cas pas autant, sur les destinées scolaires ou les parcours empruntés. Cela montre en fait que malheureusement le système scolaire en Suisse échoue en tout cas en partie à égaliser, en fait à compenser peut-être des manques de ressources de certaines familles, de par le fait que, par exemple, ils ne peuvent pas aider les jeunes dans les choix scolaires, dans le soutien scolaire. On a toujours l'idée de l'image un peu du parent qui vient aider faire les devoirs pour des questions linguistiques, mais également pour des questions de niveau de formation. Les parents immigrés sont souvent limités. Et je dis souvent parce qu'il ne faut pas non plus généraliser, il y en a qui ont des niveaux de formation élevés et qui ont beaucoup de ressources. Mais j'aurais tendance à dire en fait que c'est un peu justement ce que fait le système scolaire ou ce que n'arrive pas à faire le système scolaire le problème, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à faire face à une certaine diversité migratoire, sociale, du public ou des étudiants, des familles.
Vous l'avez souligné, il y en a qui ont des ressources et qui réussissent tout de même à dépasser ces obstacles. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Jacob Moustaklem parmi nous, qui est originaire de Palestine. Il est né à Genève. Jacob Moustaklem, vous êtes issu d'une famille qu'on pourrait dire aux revenus modestes, une situation modeste. Et pourtant, vous avez réussi à dépasser toutes vos difficultés, vos obstacles pour accomplir un rêve quand même. Ça ne vous a pas empêché de rêver d'intégrer une des plus hautes écoles et les plus prestigieuses au niveau mondial, l'EHL, École hôtelière de Lausanne.
Comment fait-on pour arriver à rêver grand alors que le contexte socio-économique dans lequel on a grandi, dans lequel vous avez grandi, tend à limiter toute perspective d'avenir?
Oui, tout d'abord, je pense que c'est en rien le revenu des parents ou leur compte bancaire qui va définir la réussite de leur enfant, mais l'éducation, la motivation et tout l'amour qu'ils peuvent fournir à leurs enfants. Et c'est la ressource principale dont j'ai pu bénéficier avec ma famille. Et je pense que c'est ça qui m'a permis d'avoir tous ces rêves et de rêver haut et de, malgré tout ce qu'on pourrait penser, aller à justement ce genre d'école.
Par Mais il vous a fallu tout de même développer des stratégies et des moyens pour y croire, si ce n'est que cela.
Alors, bien sûr, une grosse partie de ma vie, c'est aussi le développement personnel, l'inspiration, moi-même mes propres lectures, tout ce dont je me nourris cérébralement parlant, dans le sens les vidéos, les fréquentations. Vu que j'ai ce rêve en tête, j'ai cette motivation, tout ce dont je vais me nourrir va aller dans cette direction-là. Et mes fréquentations, finalement, ce qui est marrant, c'est de voir, c'est que lorsque j'ai le moins bien performé dans ma carrière scolaire, parce que j'ai une petite carrière professionnelle, mais principalement une carrière scolaire, où j'ai doublé mon année, c'était lorsque j'avais de mauvaises fréquentations. Et c'est ça qui m'a le plus péjoré dans mon parcours. J'ai eu ce rêve à 17 ans exactement, d'aller à l'école hôtelière de Lausanne. Je l'ai communiqué à mes parents et ils m'ont dit « Malheureusement, on va pas pouvoir te payer l'école. »
Oui, parce que là, il fallait pas non seulement rêver d'avoir des bonnes compétences, mais en plus, il fallait assurer financièrement. Donc, c'était un double défi que vous êtes posé.
Bien sûr. Moi, y aller, juste mon dossier, ça, à aucun moment, je me suis dit « Ça va être un problème. » Mon profil, j'étais persuadé de pouvoir le faire. Dans ma tête, j'appartenais à cette école. Maintenant, la grosse barrière, c'était bien sûr la barrière financière. Mes parents m'ont dit, à ce moment-là, si tu veux le faire, on t'encourage à le faire, mais financièrement, on pourra pas te soutenir. Et c'est là où j'ai eu le déclic et où je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai comme, si on me refonde sur mon sort et dire que j'ai pas les parents qui peuvent me soutenir et aller à cette école, ou tout simplement travailler et économiser de l'argent, et dès que j'aurai assez d'argent, pouvoir payer cette école. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai enchaîné plusieurs petits boulots et ensuite j'ai fait une carrière bancaire de 3 ans et c'est là où j'ai économisé le gros de ma fortune pour payer cette école. Et dès que j'ai eu assez d'argent, j'ai tout simplement quitté la banque pour
intégrer votre l'école hôtelière, bien sûr, celle que vous aviez rêvé depuis votre enfance. Sophie Chézot, vous aimeriez réagir?
Oui, tout à fait. Je réagis surtout et effectivement au fait que c'est pas le porte-monnaie qui fait la réussite. C'est vraiment, et vous l'avez dit très très bien, c'est l'amour que portent leurs parents et la justesse des actions. Parce qu'on peut avoir des parents aimants, mais qui ne mettent pas en place les actions nécessaires ou qui ne savent pas le communiquer à leurs enfants, le montrer assez fort pour que l'enfant ait confiance en lui. En fait, la majorité de nos jeunes à Cap Formation souffrent d'une mésestime d'eux-mêmes très puissante. Hein. Ils pensent qu'ils sont capables de rien, qu'ils ont jamais été bons à l'école et qu'ils sont jamais bons. Donc, et ça, souvent, cette confiance-là, elle vient des parents adéquats. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, des familles dysfonctionnelles, c'est des freins énormes pour les jeunes. Par contre, une famille toute simple, mais où il y a beaucoup de soutien et beaucoup de confiance dans l'enfant et dans le jeune, là, ça peut fonctionner tout à fait bien.
Andrés Gomez-Oro, Jacob Moustaklem illustre très bien un certain nombre d'exemples dont vous faites référence dans votre recherche, des jeunes issus de la première ou de la deuxième génération qui, une fois dépassés certains paliers, parviennent à des études très brillantes et réussissent très brillamment au niveau professionnel.
Tout à fait. Donc, c'est vrai que j'ai observé des situations similaires dans ma thèse et actuellement également. Donc, on a un projet à l'université de Berne sur le rôle joué par les parents dans la réussite scolaire. Et nous voyons clairement qu'en fait, quelquefois malgré des niveaux de formation des parents relativement bas, donc des possibilités concrètes de soutenir les jeunes ou qui sont limités, on voit qu'en fait les parents ils développent vraiment des stratégies quelquefois de compensation, par exemple de leur manque de ressources. Donc ils arrivent à compenser en mobilisant leur réseau ou par exemple les institutions, les acteurs institutionnels également, pour soutenir leurs enfants. Et peut-être un aspect qui est important dans ces cas de réussite, c'est à la fois donc le fait que les parents et les familles soient soutenantes, qu'ils offrent, si on veut, un soutien adéquat par rapport à ce qu'a besoin le jeune, mais également si on veut que le jeune, sa famille et aussi à l'école, tout le monde aille dans le même sens, si on veut. Donc j'ai trouvé ça super intéressant dans ma thèse de voir des cas où justement, par exemple, le jeune avait une aspiration très 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 élevée vers l'université, par exemple, où les parents, au contraire, disaient il faut plutôt faire une formation courte, ou d'autres situations où c'était plutôt certains professeurs qui disaient bah, tu n'as pas les moyens ou les compétences pour atteindre l'université. Et là, on voit qu'il y a vraiment des parcours qui sont discontinus et beaucoup plus compliqués, si on veut, et avec beaucoup de barrières institutionnelles ou familiales. Peut-être c'est un aspect important à mentionner dans votre cas, c'est on voit qu'il y a certaines barrières institutionnelles, mais vous aviez les mêmes ambitions que vos parents, ou en tout cas, vos parents ont clairement accepté et embrassé vos ambitions scolaires.
Sophie Chézeau, ça fait écho à votre pratique lorsque j'imagine que vous êtes tout à fait d'accord qu'il est important en fait d'entendre que tout le monde soit d'une même voix, que ce soit la famille ou l'école. Est-ce que c'est toujours le cas? Parce qu'on dirait que ce n'est pas juste l'origine sociale qui fait la différence, c'est cette notion d'appui, oui. Il est primordial. Et qui peut donner cet appui si toutefois la famille ne peut pas le faire?
Oui, évidemment, il y a des tas d'aides. Et d'ailleurs, Cap Formation réunit autour de lui, enfin de ce dispositif, il y a énormément d'acteurs différents. Que notre rôle, c'est de mettre en commun toutes ces ressources et tous ces acteurs différents pour aller dans la même direction avec le jeune. Et mes collaborateurs, ils se calquent aux besoins du jeune. Enfin, le jeune doit quand même faire un projet réaliste. Irréalisable, hein. On peut l'emmener parfois, on peut suivre un jeune sur un rêve qui nous paraît irréaliste parce qu'il faut parfois aller au bout de ses rêves pour voir si on va y arriver ou pas. Mais le case management, c'est ça, c'est de réunir plusieurs acteurs pour résoudre différentes problématiques pour aller dans le même sens. Et puis en ce qui concerne l'appui de la famille et puis le fait que la famille soit aille dans la même direction du jeune, c'est aussi valable pour les familles très aisées. En fait, on peut avoir des parents avec, qui sont d'une famille et d'ailleurs issus de l'université ou je ne sais quoi. S'ils ne sont pas en phase avec le projet de leur jeune, eh bien là aussi ça capote. Donc c'est pour ça souligne qu'effectivement l'argent ne fait pas le bonheur en l'occurrence.
Et c'est très bien ainsi. Jacob Bostaclin, vous souhaitiez réagir?
Alors moi, en l'occurrence, ce qui est intéressant de souligner, c'est que lorsque je finissais le cycle. Moi, je voulais me diriger vers une formation professionnelle, un apprentissage, quelque chose de très appliqué pour vite avoir un salaire. Je sais pas si c'est dû au trend du moment quand on a cet âge-là, mais ce dont je voulais à ce moment-là, c'est travailler, faire de l'argent et rentrer dans la vie active. Mes parents ne partageaient pas cette vision-là. Les deux issus d'un milieu académique, ils ont fait leurs études respectives en Égypte et en Palestine en l'occurrence, et me disaient sans cesse « Non, tu ne feras pas d'apprentissage, il faut aller au collège, et une fois que tu feras ta maturité gymnasiale, tu pourras faire ce que tu veux ». Et c'est ce dont ils m'ont convaincu. Et même si peut-être la première année ou la deuxième, je le faisais un peu à contre-cœur, j'ai vite apprécié ces études et j'ai réalisé finalement l'importance de cette quasi-obligation de mes parents que plus tard finalement, lorsque j'ai eu cette aspiration pour aller à l'école hôtelière de Lausanne et que j'étais bien évidemment bien content d'avoir fait le collège. Et aussi pour travailler à la banque, cela m'a bien bien servi. Et ce qui est aussi marrant de voir, c'est que plus tard, lorsque je travaillais à la banque, que j'avais donc un emploi, un bon salaire, à ce moment-là, j'ai perdu donc mon papa qui est décédé, et du coup, la situation familiale était encore plus fragile, aussi financièrement et dans sa structure de manière générale. Et ma maman, à ce moment-là, me demandait de rester à la banque et de rester employée.
Parce que c'était plus sûr.
Exactement. Elle me disait, mais là, t'as plein de possibilités d'évolution. Tu parles plusieurs langues. Ton chef est très content de toi. Et il voulait aussi me
promouvoir. Vous grader dans votre profession.
Et moi, j'étais ici confronté au même dilemme que j'avais eu plus tôt dans ma vie. Sauf que ici, j'ai dû...
À l'inverse.
Oui, j'ai dû...
Convaincre
ma maman et finalement me convaincre aussi moi-même que le choix que j'avais fait d'aller à cette école et donc de quitter ce job était bien plus important. Et voilà.
Monsieur Gomenzero, est-ce qu'on peut dire, à entendre Jacob, on a l'impression que tout dépend de soi, on serait un peu dans une espèce de philosophie... Tu peux le faire si tu le veux, mais tout de même, c'est pas aussi simple que ça. Il y a quand même des mécanismes créateurs d'inégalités, en tout cas lorsqu'il s'agit de parcours scolaires.
Tout à fait, oui. C'est vrai que cette idée un peu de méritocratie, où on se dit c'est l'individu qui est maître de son destin, est une belle idée, mais elle n'est pas réaliste dans le sens où...
Du moins, elle n'est pas suffisante.
Disons que c'est un aspect important des réussites scolaires, de vouloir, d'aspirer à atteindre un but et d'avoir un but, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas de but scolaire. C'est quelque chose d'important. Après, on parle de compétences également, donc il faut prendre aussi en considération toutes les différences de compétences scolaires, de niveaux scolaires qui peuvent permettre certaines formations, d'atteindre certaines formations bas. Donc il y a cet aspect un peu de méritocratique où on se dit quand on veut, on peut, au niveau individuel, mais après au niveau collectif ou au niveau sociétal, quand on observe les inégalités ou l'étendue de ces inégalités, on voit qu'il y a vraiment énormément de mécanismes créateurs d'inégalités. Et par exemple, la sélection au secondaire 1, donc au cycle d'orientation ou au cycle de transition, plusieurs études ont montré que cette sélection n'est pas favorable en fait aux enfants d'immigrés et que dans des cas si on veut où on hésite par exemple à orienter vers une filière ou une autre, c'est là où l'origine sociale par exemple joue un rôle important, où on se dit bah voilà, peut-être la famille est immigrée. Elle est d'origine sociale modeste, donc on va jouer la carte de la sécurité et l'orienter vers le pré-apprentissage. Donc par exemple, ces mécanismes-là, il y a d'autres études qui ont montré également des discriminations lors de la recherche de places d'apprentissage. Donc ça, c'est, tout un mécanisme ou un processus qui se joue un peu... qui est un peu différent, si on veut, de la sélection au sein des institutions scolaires, parce que là, on va plus vers le marché du travail. Donc, ça s'apparente davantage à une sélection d'employés ou d'apprentis. Et là aussi, on voit qu'il y a des mécanismes de discrimination.
Qui sont différents suivant les cantons, je crois savoir.
Qui sont différents selon les régions linguistiques. Par exemple, il y a l'étude de Rosita Fibi, qui a été actualisée l'année dernière, d'ailleurs, qui montre que les jeunes d'origine des Balkans ont plus de difficultés à trouver un travail après un apprentissage, mais également pour rentrer dans les apprentissages, on a les études de Christian Imdorf qui ont montré par exemple que les jeunes hommes originaires des Balkans étaient discriminés lors de la recherche des places d'apprentissage. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi toutes les justifications des patrons et des personnes qui sélectionnent les apprentis. Oui, c'était pas une claire discrimination, donc c'était vraiment argumenté ils mettaient en avant par exemple la peur de que des jeunes par exemple kosovars ou albanais soient mal perçus par les clients de l'entreprise ou qu'il y ait une mauvaise ambiance au sein de l'entreprise. Donc c'est tous des préjugés si on veut qui créent des discriminations.
Donc, qui viennent s'ajouter en tout cas à ces mécanismes de frein pour l'évolution de ces jeunes. Madame Chézot, est-ce que cette lecture fait écho à votre pratique? Est-ce que les établissements genevois ont conscience de tous ces freins qui peuvent être contre l'évolution de formation des jeunes?
Alors, conscience, j'espère. Mais c'est vrai que la sélection, elle se fait par le niveau scolaire, je dirais. Hein. Et en cela, il y a une chose qui est tout à fait primordiale pour les jeunes, c'est de maîtriser parfaitement notamment la langue française, parce qu'il y a beaucoup de tests. La langue française et les maths, en fait, c'est vraiment le socle. Et évidemment, plus les jeunes arriveraient ça depuis peu de temps, moins ils maîtrisent cette langue. Et en tout cas, à CAF Formation, c'est un de nos chevaux de bataille, dans le sens où c'est quelque chose de très important. On sait pertinemment qu'un jeune va avoir de grandes difficultés à rentrer en apprentissage et surtout à le réussir s'il ne maîtrise pas bien complètement la langue française orale et écrite aussi. Il y a beaucoup d'examens qui se passent à l'écrit, même si c'est une formation professionnelle. Je voudrais juste faire une petite parenthèse sur le « si tu veux, tu peux ». Alors, en tant que psychologue en orientation, j'ai déjà vu des jeunes vraiment qui étaient très très mal partis. On n'aurait jamais imaginé qu'ils puissent faire un joli parcours parce qu'ils étaient vraiment mal partis à un niveau scolaire très bas et puis, voilà, pas mal de difficultés autres, et puis qui en fait ont réussi, mais en général ça prend plus de temps, ça prend un peu plus de temps, et puis il y a des carrières où c'est vraiment complètement difficile d'aboutir, même si ça prend plus de temps. Si on veut devenir chirurgien, c'est sûr que si on le fait pas à 18 ans, 19 ans, là ça devient quand même très compliqué, mais moi j'ai déjà vu des jeunes faire des parcours incroyables. Alors qu'on n'aurait jamais pensé, mais voilà, ça prend du temps parce qu'il faut prendre, des chemins un peu détournés, et en fait, on s'aperçoit que la formation professionnelle, elle peut mener très très loin. On peut arriver à faire un master en étant partie d'une AFP, enfin du niveau, le plus primaire, je veux dire, de formation professionnelle en 2 ans, et en montant les échelons, en prenant les chemins de traverse, et ben on arrive parfois à faire un très beau parcours. Alors c'est sûr que c'est pas la majorité.
Andrés Gomenzoro, vous voudriez réagir?
Oui, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à ce que vous dites. C'est très important, en fait, de faire la distinction entre les jeunes qui arrivent en cours de route, en cours de formation. Et là, si on veut, c'est un risque en soi. Et là, il n'y a pas besoin, c'est pas forcément lié à l'origine sociale ou à d'autres caractéristiques, mais c'est vraiment réellement un risque en soi d'arriver en cours de route en Suisse, et d'autant plus que cette première sélection, pas forcément à Genève, mais dans la majorité des cantons, elle se réalise à l'âge de 12 ans. Donc ces jeunes-là ont très très peu de temps pour acquérir la langue et refaire un peu leur retard, si on veut. Et à partir de là, c'est très important de les distinguer aussi de ce qu'on appelle la seconde génération, donc c'est plus des jeunes qui sont nés en Suisse,
de mais parents, issus de la migration.
Voilà, de familles migrantes, au sein de familles migrantes, où là, on a vraiment des situations qui se rapprochent davantage aux jeunes d'origine suisse. Donc c'est important, en tout cas, de distinguer entre jeunes arrivés en cours de route et jeunes qui ont fait toute leur scolarité en Suisse.
Comme c'est le cas, par exemple, de Jacob. Est-ce que, justement, ces jeunes issus de la migration, qui seraient la deuxième et troisième génération, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a quand même une avancée, qu'on a pris conscience de certains obstacles qui les attendaient, et quels sont les rattrapages ou les mesures qui ont été mises en place? Y a-t-il une bonne sensibilisation à cet égard?
Alors, j'aurais envie de dire, tout dépend de la région et du canton, parce que en Suisse, il y a différents systèmes scolaires selon le canton, et différentes volontés, différentes organisations, différents niveaux d'investissement pour aussi au niveau budgétaire, pour faire face à des difficultés ou à des prises en charge peut-être des encadrements des jeunes qui en ont plus besoin, si on veut. Donc, j'aurais envie de dire, depuis les années 90, beaucoup de choses ont avancé. Par exemple, les classes d'accueil ont été mises en place à Genève et ont été développées dans énormément de cantons. Mais aussi, il y a eu, au niveau scientifique et au niveau politique, vraiment une prise de conscience des difficultés que font face les jeunes d'origine immigrée et justement tous ces processus de discrimination. Donc, il y a eu énormément de choses qui ont été faites. Une chose très simple, par exemple, c'est que dans tous les cantons, l'école obligatoire commence à 4 ans. Donc c'est pas encore le cas, mais c'est une grande avancée. Donc qu'on commence à 4 ans ou à 6 ans, ça fait une énorme différence, par exemple. Donc je dirais qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, mais encore beaucoup de choses à faire.
En matière d'évolution, Madame Chézot, Genève est quand même citée comme exemple pour certaines démarches.
Oui, tout à fait. Alors, nous sommes le seul canton suisse à rendre la formation obligatoire jusqu'à 18 ans. Dans la majorité des autres cantons, c'est 15 ans. Et ça donne effectivement quelques années de plus aux jeunes pour solidifier leur, consolider leur niveau de base, pour réfléchir à une éventuelle orientation, à faire des essais, etc. Donc ça, ça a réduit de façon extrêmement drastique à quelques maintenant infime pourcentage les jeunes les jeunes mineurs qui décrochent à Genève. Donc ça, c'est une spécialité genevoise. Et puis par ailleurs, pour les personnes, les néo-arrivants, il y a quand même le programme AIS, l'agenda d'intégration suisse, où là, on met un accent extrêmement fort dès l'arrivée de la personne sur le français, sur l'apprentissage du français. Et puis ensuite, à Genève, mais dans d'autres cantons suisses aussi, il y a le PAI, le pré-apprentissage d'intégration, qui est à partir de 18 ans, pour les jeunes à partir de 18 ans jusqu'à l'âge de 35 ans, et c'est un pré-apprentissage qui dure une année, avec 2 jours à l'école et 3 jours en entreprise. Et ça, une mesure qui marche extrêmement bien, avec un taux de retour, d'entrée en formation, en tout cas la dernière année, de 71%. Et donc c'est une mesure qui est très très utile à ces personnes nouvellement arrivées.
Il y a beaucoup de passerelles, il y a une évolution du système qui permet à l'étudiant de se rattraper en tout temps, mais faut-il encore connaître ces passerelles et faut-il encore être soutenu et appuyé? Et là, on revient encore à cette peut-être possible inégalité sur qui sont les personnes qui peuvent nous aider à dépasser, à s'informer et aussi à braver ces obstacles. Jacob, vous, de votre côté, est-ce que vous avez eu des moments que, grâce à une information, vous avez pu saisir une passerelle et réussir à arriver à votre objectif final?
Après, moi, la grosse information que j'ai eue, c'est de savoir que toutes les banques avaient créé une formation qui s'appelle... Donc la formation initiale bancaire pour porteurs de maturité, une formation qu'on peut faire suite à notre cursus gymnasial. Et dès que j'ai entendu que cette formation existait, je l'ai faite, et c'est quelque chose qui a changé ma vie, en l'occurrence.
Donc avoir cette possibilité d'être informé, ça reste quand même un facteur important. Est-ce qu'il y a des mécanismes, est-ce qu'il y a des structures qui permettent justement de peut-être communiquer avec les parents si la langue devait être un facteur problématique, ou encore informer les parents s'ils comprennent pas le système, parce que moi-même je le trouve parfois très complexe. Madame Chézot, y a-t-il de ce genre de séances d'information, d'aide et d'appui?
Oui, bien sûr. Alors dans les écoles, évidemment, il y a des séances parents à tous les niveaux, au cycle aussi bien que au collège ou à l'ECG, etc. Et puis à l'office d'orientation. Alors là, je prêche pour ma paroisse, mais à l'office d'orientation, il y a la Cité des Métiers qui est ouverte à tout un chacun sans rendez-vous, c'est gratuit, vous pouvez aller à la Cité des Métiers, poser des tas de questions sur la formation continue, donc les adultes, sur la formation professionnelle, sur la formation générale. Et puis à l'office d'orientation, on a aussi des Zooms métiers, donc pour les jeunes, qui sont aussi ouverts à tous, des tas d'ateliers, enfin il y a énormément d'informations, sans parler de la Cité des Métiers Palexpo, qui n'a pas malheureusement eu lieu cette année, mais qui a été reportée à l'année prochaine, et ça c'est un énorme lieu pour se renseigner.
Andrés Gomenzero, est-ce que c'est suffisant pour justement pallier à cette inégalité quant à l'accès à l'information et même peut-être accès à la motivation d'y aller?
Disons que si on regarde au niveau général, si on a un point de vue au niveau suisse, on voit qu'il y a encore des inégalités qui sont marquées selon l'origine migratoire et l'origine sociale. Donc si on veut, on n'arrive pas encore à égaliser, où le système scolaire n'arrive pas encore à égaliser et à compenser tout ça. Après, je pense que c'est... de nouveau, ça dépend de quel canton on parle. Et à Genève, c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui sont faites, mises en place, étant donné aussi la diversité migratoire et sociale du public, des étudiants, des familles. Donc c'est une réalité qui est importante à Genève, d'où le développement de ces mesures-là. Et après, j'aurais tendance à dire que c'est important de pas forcément se limiter à certains âges. Et Madame Chezeau, vous parliez de mesures qui vont jusqu'à 35 ans. Et je suis extrêmement favorable à ça parce que j'ai remarqué dans l'étude justement des parcours des jeunes en faisant des entretiens avec des jeunes d'origine kosovare qu'on voit que c'est aussi important des notions de timing, c'est-à-dire qu'on peut donner l'information, on peut donner le soutien, mais pas au bon moment et ça accroche pas. Par contre, quand la bonne situation est pas forcément mise en place, mais est là. Et la personne qu'il faut est là, ça peut être un professionnel, ça peut être aussi un acteur clé ou une personne, un exemple qui vient donner une information, qui vient soutenir le jeune, et puis là la personne raccroche vers une formation ou vers un emploi. Donc je pense que c'est extrêmement important de développer ça sur la durée et vraiment d'inclure les gens. Et également la notion de la langue, si on inclut les familles et les parents. C'est extrêmement important d'avoir des interprètes et d'essayer aussi d'inclure les parents dans tout le processus, même si le jeune est déjà majeur.
On l'aura compris, hein, cette inégalité est produite grâce à un ensemble de facteurs, que ce soit la langue, que ce soit le statut familial, la situation familiale, le parcours de l'enfant, le niveau de motivation. J'aimerais vous donner le mot de la fin, Jacob Moustaklem. Vous entendez ces réalités? Est-ce que ce sont des réalités qui vous ont traversé et que vous avez réussi à dépasser, ou simplement vous étiez tellement concentré sur votre objectif que de toute manière, vous saviez que vous alliez y arriver, quelles que soient les embûches?
Moi, je pense qu'ici, le plus important, c'est d'avoir un objectif, et pas n'importe quel objectif, un objectif qui nous passionne et qui nous donne envie d'avancer. Parce que quelqu'un d'épanoui dans la vie sera toujours productif. Et donc, avoir un objectif, déjà, en trouver un, mais un qui nous plaît, je pense qu'ici, c'est la clé de la réussite, clairement. Parce qu'ensuite, on va en découler, je l'espère pour la personne, mais je pense, plein de succès. Et en l'occurrence, moi, j'avais plusieurs difficultés à l'école, etc. J'ai jamais été le premier de la classe. Et pourtant, à l'école hôtelière, pendant l'année préparatoire, j'ai eu l'honneur d'avoir le prix du meilleur élève et de la meilleure classe, alors que j'avais pas forcément les connaissances pour performer dans tous les cours. Mais grâce à la motivation et à l'envie d'avancer, j'ai pu avoir ces prix.
Merci au docteur Andrés Gomez-Oro, collaborateur scientifique à l'Université de Berne, à l'Institut de sociologie, à Sophie Chezeau, directrice de Cap Formation à Genève, et à Jacob Moustaklem, étudiant à l'école hôtelière de Lausanne. C'était l'épisode 16 de Nous sommes là. Nous vous trouverons la prochaine fois pour un sujet tout aussi pertinent que celui-ci, sur l'égalité des chances avec le genre. Une réalisation de Viosa Gervala pour le compte de la Commission fédérale des migrations, à écouter sur www.ekm.admin.ch et sur www.podcastlab.ch et sur les plateformes d'écoute où l'on trouve des podcasts de qualité tels que Spotify, Deezer et Apple Podcasts.